et ensuite le récit historique qui reprend l'histoire depuis l'origine de la famille d'Abraham jusqu'à la sortie d'Égypte. Vous vous rappelez de ces deux récits. Ça vous plaît donc, si vous êtes dans la Haggadah, une première partie de questions. Ensuite, une deuxième partie, première réponse. Troisième partie, deuxième réponse. Et ensuite, la quatrième partie, c'est à partir de Rabban Gamliel que je voulais situer. Et là, c'est de nouveau, vous voulez, une troisième réponse, mais qui n'a pas, comme les deux premières, une portée à proprement parler historique, mais disons liturgique. Puisque l'essentiel de la question des enfants, c'était qu'est-ce qui se passe de différent dans le repas de ce soir, Manushana, Alaylazé, Mekholalevo, et toutes les questions se portent sur la manière dont le repas est agencé. Alors c'est là que maintenant la réponse est donnée dans le détail. C'est-à-dire trois explications sur pourquoi il y a le Pessah, pourquoi il y a la Matzah et pourquoi il y a le Maror. Est-ce que c'est clair? Alors là, je voulais, avant que nous relisions ça rapidement, que vous repreniez dans le livre de Shemot, il y a donc un thème important auquel j'ai fait allusion. Je vais prendre à partir du chapitre 12. Du début du chapitre 12, c'est cette paracha qu'on appelle la paracha de Chodesh. Alors, il y a dans ce chapitre deux parties. La première, c'est la première révélation des mitzvot qui sont données dans la Torah, sont les mitzvot qui vont régir la manière dont le Pessah de la sortie d'Égypte doit se réaliser. Et ensuite, ça va jusqu'au verset 14. Et à partir du verset 14, la deuxième partie de ce chapitre, c'est les mitzvot concernant la commémoration de Pessah d'année en année à partir du temps de la sortie. Je voudrais que vous notiez deux expressions. C'est Pessah chez Mitzrayim, et dans certaines utilisations de cette expression, on dit Pessah Mitzrayim, ou bien en araméen, Pessah de Mitzrayim, mais peu importe, le Pessah qui a été réalisé le soir de la sortie d'Égypte elle-même, et ensuite Pessah chez le Dorot, et ça veut dire Dorot, les générations, le Pessah de la commémoration de ce Pessah. Alors, qui peut me rappeler le thème que nous avons eu à ce sujet? Je vais poser une question. Que signifie le fait qu'on ait à commémorer ce Pessah de la sortie d'Égypte?
Il est achevé.
Enfin, analyse plus. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Par exemple, un exemple. Où ça se... Sur quoi ça s'appuie, par exemple, dans le rituel de la commémoration? Vous avez lu, vous avez étudié, il me semble, ce chapitre 12 de Parashat HaKodesh. Oui ou non? Oui? Bon, vous l'avez étudié. Voilà, ce que je veux mettre en évidence, c'est qu'il y a deux sortes de matzot. La matzah qui a été réclamée pour le soir de la sortie d'Égypte, le repas de la sortie, et ensuite la matzah qui fait partie de la commémoration chaque année de ce qui s'est passé la première année de la sortie elle-même. dire qu'il y a deux motivations. La première, et ça va jusqu'au verset 14, donc la première partie du chapitre, le repas du soir de la libération doit se faire avec des matzot. Et deuxièmement, la Torah nous raconte que le soir de cette libération, tout s'est fait de façon précipitée. Vous vous rappelez, nous avons étudié ensemble au dernier cours ce texte-là, et ceci sera commémoré par le fait que pendant les 7 jours de la commémoration, d'année en année, bon, la Gola il y a 8 jours, mais la fête a 7 jours avant qu'on en parle, et on devra de nouveau manger des matzot. La motivation est différente. La première, c'est que puisque c'est Pessah, on mangera des matzot le soir de la sortie des livres. Ce soir de Pessah de la sortie des livres. Ça, je vais donc expliquer tout à l'heure. La deuxième motivation, puisque la sortie d'Égypte s'est faite avec précipitation, dans la commémoration, on mangera des matzot. Vous voyez, le sens de la commémoration, est, la matza, le pain non levé, se réfère à l'événement historique qu'il n'y a pas eu de temps pour que la pâte lève. Mais la première matza dont on nous a parlé au début du chapitre, c'est que puisqu'on va réaliser le rite de Pessah, c'est-à-dire de sortir d'un monde, d'un monde ancien, pour entrer dans un monde nouveau, le repas se fera avec de la matzah a priori. C'est-à-dire avant même qu'on sache si Israël a eu le temps ou n'a pas eu le temps de laisser, de faire que la pâte se lève, avant qu'on sache tout cela, la prescription que le repas de Pessah soit avec des matzot a été donnée. Donc il y a bien deux motivations différentes. Est-ce que c'est suffisamment clair? L'origine. Quel est un texte que tu as entendu?
Non, j'ai entendu.
Qu'est-ce
qui
Utilisation du principe que je veux d'abord entendre. Une implication possible d'un principe général. C'est un détail. C'est une manière d'exprimer ce que j'attends d'entendre. Avant d'y arriver, comprenez bien donc, on va voir dans les versets qu'il y a deux matzot différentes. Et alors, bien que la Haggadah commence en se référant sur apparemment une troisième définition. Alors, je reprends les choses dans l'ordre. La première Mishnah de la Haggadah commence par Har Lachma Anya Yachalu Avatana Bera de Mitzrayim. Qu'est-ce que ça veut dire? Voici le pain de misère que nos ancêtres avaient mangé dans le pays d'Égypte. Donc, il ne s'agit pas du tout d'une matzah qui se référait soit au repas du Seder le soir de la sortie, soit au repas de la commémoration du Seder parce que la pâte n'avait pas lavé. Alors mettez ça en ordre. La première définition de la matzah qui nous est donnée, elle représente l'esclavage. C'est clair? La deuxième, celle que je vais vous expliquer tout à l'heure, c'est puisque le rite de Pessah va se faire, le pain doit être un pain sans levain. La troisième, c'est puisque la sortie s'est faite avec précipitation et que la pâte n'a plus le temps de lever, dans la commémoration du Seder, alors on prendra de la matzah et non pas du pain levé. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, nous aurions pu avoir une commémoration d'un tout autre type, et il faut comprendre pourquoi il n'en est pas ainsi, où seulement dans le plateau du Seder il y a de la matzah, mais que le reste de la journée ou le reste de la semaine, on mange du pain levé. Pourquoi on ne mange pas du pain levé, dit la Torah dans ce récit? C'est pour commémorer le fait qu'à la sortie d'Égypte, il y a eu précipitation et la pâte n'a pas levé. Okay. Et alors la matzah du Seder se réfère à autre chose. Elle se réfère à quoi? À quoi elle devrait se référer? À cette matzah qui est réclamée des Hébreux le soir de la sortie d'Égypte. Mais en fait, la Haggadah commence par une toute autre définition. Voilà le pain de misère que nos ancêtres mangeaient en Égypte avant la sortie d'Égypte, pendant le temps de la sortie d'Égypte. Alors on commence par là. Vous avez bien mis ça en point. Il y a trois matzot différentes, je veux dire trois tarmim, trois raisons de la matzah complètement différentes. Alors, ce n'est qu'à la fin de la Haggadah, et c'est le texte que nous allons reprendre, qu'on va donner la raison historique. Mais alors d'abord, pourquoi la Gala commence par une troisième définition, ce pain qui n'est pas le pain levé parce que c'est le pain des esclaves. Ce n'est pas le pain riche, c'est le pain pauvre. La réponse est très simple. Parce que nous commémorons le céder, une fois revenu en exil. Et ici, il s'agit de l'introduction au céder de commémoration de la sortie d'Égypte, mais revenu en exil. Et autrement, et vous voyez vous-même, cette expression « halachma anya diachalu avatana » est bizarre. Parce que les deux explications que la Torah nous donne, c'est que dans tous les cas, le plat du céder à la sortie d'Égypte, c'était de la matza et pas du pain levé, et pour des raisons qui n'ont rien à voir avec l'histoire. A priori, pour une raison rituelle, liturgique, à laquelle on se référera tout à l'heure. Et puis, deuxièmement, l'explication historique, c'est que le pain n'ayant pas levé, c'est ça qu'on commémore en ne mangeant que de la matza pendant les 7 jours de la fête. Alors donc, la raison pour laquelle la Haggadah commence par cette interpellation « Voici le pain de l'esclave », c'est parce que la commémoration de la libération se refait de nouveau dans une situation d'esclavage, d'aliénation. Est-ce que c'est bien clair? Ce que je vais ajouter là peut apparaître un peu paradoxal, c'est que le symbole de ce récit, la Haggadah, c'est cette phrase-là, à travers 2000 ans, plus 3000 ans. « Ha'lachma anya diachalu avat » Cette Mishnah a été instituée au temps de la destruction du premier temple, lorsque on est revenu à une situation d'exil. Et finalement, à la fin des temps, cette expression va disparaître, et pourtant, apparemment, elle est le symbole de l'explication de la matza, le pain de misère que... Est-ce que c'est clair? Bon. Et...
Dans ce cas-là, il
faudrait plus commémorer. À partir du moment où le rabbinat d'Israël prendra acte officiellement, de façon irréversible, et il va expliquer pourquoi on tarde à le faire, pour ne pas, pour ne pas brusquer un tri qui risquerait de mettre hors la loi ceux qui ne sont pas encore au stade où ils arrivent à admettre que c'est déjà comme ça et pas autrement. Tu comprends ce que je veux dire, hein? Mais quand le rabbinat d'Israël prendra l'initiative de nous donner la liturgie de la libération présente, il est bien évident que la question se posera. La matza de la commémoration, c'est la matza de la libération, c'est pas la matza de l'esclavage. Vous voyez qu'on a cette matza qui porte un symbole, enfin une signification de Géoula, on a attribué une signification de Galoute. Alachma Anya. Nous avons une tradition dans la Gemara qui dit que, en réalité, il faut lire Alachma Anya tout à fait autrement. C'est comme ça qu'on lira probablement à la fin des temps. C'est Lechem Shekulam Onimbo. Ça veut dire c'est le pain à propos duquel il faut donner des réponses. C'est-à-dire à propos duquel on questionne, on se pose des questions. Je ne sais pas si vous connaissez déjà ce verbe. La Amot, ça veut dire répondre. Bon, je ne voulais pas aussi étudier cette source avec vous, mais pour l'indiquer. Bon, alors premièrement, pour simplifier tout ça, revenu en exil, alors la matza va se charger d'un troisième sens, le pain de l'esclavage. Mais nous avons deux autres sens à élucider. Le troisième, il est très facile à comprendre, on va dire de verser rapidement. Je pense que vous avez compris la signification que je vous ai déjà donnée à ce sujet, c'est qu'il y a une tâche à accomplir pendant le temps de Galoute et que nous n'avons pas eu le temps de l'accomplir, alors la pâte n'a pas levé. Est-ce que c'est clair? Ce que je veux, c'est que vous compreniez la signification spirituelle qu'il y a derrière le geste rituel lui-même. Je vais vous citer la règle à propos de ce problème. Toute commémoration historique avec un sens liturgique se fait par rapport à la nourriture de l'homme. L'histoire, c'est la préparation de ce que doit être la nourriture définitive de l'homme. Et par conséquent, le symbole, non, mais encore une fois, enlever le mot de symbole, la signification va se fixer très essentiellement sur la nourriture. Et donc, le pain, eh bien, ce sera le pain non levé. Du point de vue historique, eh bien, le pain n'a pas levé. La règle était que dans tout le rite du sacrifice au temple, c'est un rite de repas. Nous n'avons pas encore étudié ce thème, on l'étudiera, j'espère, au troisième trimestre, de nouveau en relation avec la prière. Et toute la avoda, la liturgie du sacrifice, de ce qu'on appelle en français les sacrifices, se fait à propos d'un repas. Dans ce repas, il y avait toutes les composantes habituelles du repas humain. Aucun jour de l'année, on avait le droit de faire entrer dans cette offrande du repas du pain levé, sauf à Shavuot. Shavuot, c'est-à-dire 50 jours après la sortie d'Égypte, quel est l'événement historique de Shavuot ? La révélation de la Torah. Ce jour-là, le pain est du pain levé. Ce jour-là, l'offrande du pain, c'est l'offrande du pain levé, c'est-à-dire Chametz. Mais on ne faisait entrer dans l'établissement du Chametz que le jour de Shavuot. Vous comprenez donc la signification. Shavuot, c'est la réussite de Pessah. Shavuot, c'est la clôture de Pessah. C'est à Shavuot que le processus de cette libération, de cette Géoula, est achevé. Et ça, nous le dirons de nouveau à propos de Shavuot elle-même, d'ailleurs, et du calendrier. Alors voilà donc, une minute, je vais terminer. Voilà donc pour la troisième indication, c'est-à-dire la signification historique, étant donné ce qui s'est passé dans l'histoire, le pain n'a pas levé, et c'est finalement ce qui est le plus facile à comprendre. La première indication est aussi très simple à comprendre. Revenu en exil, cette matzah, qui était le support d'une signification de Géoula, redevient le support d'une signification de Galout. On est renvoyé en arrière. Alors il nous reste la deuxième indication, je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair, a priori de la manière de la péripétie dans laquelle s'est faite la sortie de la Géoula elle-même, a priori de cela, les Hébreux se voient recevoir la mitzvah que leur repas du soir de la sortie serait un repas de matzah. Bon, je vais vous donner la réponse, je pense que vous pourrez la trouver par vous-même. Le thème, c'est qu'il s'agit du repas du commencement. Qu'est-ce que c'est que la matzah par rapport au chametz ? Le chametz, c'est un pain qui vient d'un levain antérieur. Alors que la matzah, c'est un pain qui commence par lui-même, qui ne vient pas d'un levain antérieur. C'est-à-dire, la signification de la matzah demandée au temps de la sortie d'Égypte, c'est très exactement la signification de la notion de création ex nihilo. La matzah, ça veut dire notre être, et notre être commence par notre nourriture, vient de rien d'antérieur. C'est-à-dire, le monde est créé et il a un créateur. On est renvoyé au commencement absolu. Alors, ce que tu as dit tout à l'heure, mémoire, pas mémoire, c'est impliqué dedans. J'ai été compris. Mais la notion claire, que Claude Rivlin a d'ailleurs entendu de moi, c'est que ce n'est pas la mémoire. La mémoire, ça vient après. C'est d'abord la création. Tu sais ? C'est ça ? Non, non, non. Il est probable qu'il ait formulé comme ça. Je vais vous donner. C'est pas faux.
Je me souviens très bien, en tout cas. De cette expression,
bon, c'est pas faux, mais c'est à l'intérieur d'une notion beaucoup plus générale. C'est la différence entre yesh meyesh, il y a qui vient d'un il y a antérieur, ça c'est le pain levé, et yesh me aïn, un recommencement, un commencement absolu, ça vient de rien d'antérieur. Ok ? Alors, ça dépend comment on sait utiliser cette expression, parce qu'en réalité, tout le processus de la matzah, c'est de ne pas perdre la mémoire. Tout le contraire. Oui. C'est Zerel qui a dit ça. Donc, c'est la matzah qui est le véhicule du souvenir et de la mémoire. Bon. Disons que il faut perdre la mémoire de ce qu'il y avait avant, mais pas de l'événement de la sortie. La conscience humaine est incapable de se souvenir de ce qu'il y a avant son commencement, son propre commencement. Et comme vous étudierez un jour, qu'est-ce que c'est que la fonction prophétique, la capacité prophétique ? La capacité prophétique, c'est précisément de pouvoir disposer de cette mémoire antérieure que l'intelligence humaine, que l'intelligence humaine, dont l'intelligence humaine ne dispose pas. C'est-à-dire qu'elle a perdu, elle n'a pas perdu. Et l'homme, je vous rappelle dans la série des livres des êtres de Jules Verne dans Kuzari, hein, il y a le vivant parlant, et plus haut il y a le prophète. Et qu'est-ce qu'il y a de plus haut qui permet au vivant parlant d'être le prophète? C'est précisément la capacité de mémoire absolue. C'est-à-dire seul celui qui a cette capacité de mémoire absolue peut voir l'avenir. Et pour pouvoir voir l'avenir, il faut disposer du passé. Or, est-ce que c'est clair? Or, notre existence commence avec de la matzah, c'est-à-dire un pain qui n'a pas d'antérieur. Bon, mais je reviens à l'analyse rituelle, liturgique, à propos d'en parler. C'est-à-dire, on est renvoyé à la notion de la création du monde. C'est-à-dire, tout ce qu'il y a avant la sortie d'Égypte, c'est comme si c'était le néant d'où le monde est sorti. C'est ce que représente la matzah de la deuxième motivation. Bon, je vais un peu élargir ça. Parce que vous serez assez capable de maîtriser le texte en hébreu, vous apercevrez une chose assez rapidement. C'est que la Torah demande aux Hébreux à la sortie d'Égypte de pratiquer Pessah comme si ce rite de la pratique de Pessah était déjà connu. Mais seulement en lui assignant une signification historique nouvelle. C'est un thème que nous avons étudié au début de l'année en général pour toutes les fêtes du calendrier. Le 14 Nissan, a priori, c'est Pessah. Et jusque-là, on n'avait pas encore rencontré l'événement historique dans l'histoire des hommes qui représente Pessah au niveau historique. Et c'est l'événement de la sortie d'Égypte qui donne sa signification. Tout se passe comme si la Torah explique ainsi, Pessah, à partir de maintenant, va commémorer la sortie d'Égypte. Jusque-là, ça commémore quoi? C'est le thème de commémoration du calendrier traditionnel. Ça commémore le fait de passer d'un cycle à un autre cycle, la Havor, du Soar, de passer d'un cycle à un autre. Et je vous ai expliqué ça, il me semble, au début de l'année, à propos de Hanouka. Vous vous rappelez, le 25 Kislev, avant même le temps des Maccabées, on avait la fête des Lumières, avec sa signification, mais elle n'avait pas encore rencontré vraiment l'événement historique irréversible. Et si vous avez à reformuler ce problème, que la sortie d'Égypte est un point de départ inachevé, mais n'oubliez pas que, comme point de départ inachevé, c'est irréversible. Et c'est la raison pour laquelle c'est la matzah et que la matzah. Je veux dire, la matzah parce que c'est un point de départ, et que la matzah parce que la pâte n'a pas le choix. Est-ce que c'est plus clair jusque-là? Par exemple, on va les lire assez rapidement, « Ushmartem et Amatzot », et vous observerez les matzot. Et on ne dit pas qu'est-ce que c'est les matzot. Donc c'est censé quoi. Le Midrash nous explique d'ailleurs que les patriarches pratiquaient Pessah et avec la matzah. Mais l'événement historique qui vient donner sa signification au rite, c'est la sortie du peuple hébreu au temps de Moïse. Alors ça, c'est pour la première soirée. Et si cette sortie avait été vraiment la sortie du monde de Olam Hazeh pour entrer dans Olam Haba, la sortie du monde ancien pour entrer dans le monde futur, ce qui sera la fin des temps, alors nous n'aurions pas la commémoration. Et là, je vous renvoie à un texte de la Gemara qu'on a étudié à la nuit d'étude et sur lequel il faut bien réfléchir. Lorsque la Géoula ultime sera vécue, alors la Géoula d'Égypte, quelle que soit son importance, ne sera pas oubliée, mais elle est renvoyée à un antérieur auquel on fera allusion. Est-ce que c'est bien? Donc voilà quelle est la définition de cette matzah. Ça veut dire on est renvoyé au repas du commencement. Et le repas du commencement, c'était un repas de viande grillée, de pain non levé et d'herbe. Alors, c'est la raison pour laquelle c'est le repas constitutif du Seder. On est renvoyé au Pessah du premier homme, à la nourriture du premier homme. D'ailleurs, c'est la cache-route absolue. La cache-route absolue, c'est la viande grillée, l'herbe et le pain non levé. C'est cette cache-route de Pessah, ne nous est réclamée qu'à Pessah, mais c'est la cache-route absolue. Et je veux simplement ajouter ceci. Et, le fait que la Géoula de l'Égypte et la Géoula de cette servitude à la délivrance telle qu'elle s'est passée historiquement, alors fait que la matzah, le pain enlevé, se charge d'une signification deuxième. La Pâque n'a pas eu le temps de lever, mais ça veut dire qu'on aurait dû partir avec du pain levé. Est-ce que c'est clair? Et deuxièmement, que l'herbe, c'est de l'herbe amère. Quel est l'animal qui est demandé pour le sacrifice? C'est celui qui se rattache au signe du zodiaque duquel on était sorti. Et pourquoi c'est l'agneau, l'herbe amère, la matzah, et avec sa signification donnée par le récit historique? C'est parce que historiquement, ça s'est passé dans ce temps-là de cette manière. Okay? Mais fondamentalement, les trois éléments constitutifs du CEDER sont depuis le temps du premier rang. Est-ce que c'est clair? Par exemple, la Torah nous raconte, le Midrash restitue toute l'implication du récit, que lorsque Sarah, qui ne pouvait pas enfanter, a reçu la révélation qu'elle enfanterait, ça s'est passé un soir de Pessah. Et ça s'est passé un soir de Pessah, on le voit très bien, parce qu'Abraham dit à Sarah, prépare vite les matzot. Alors, l'ouchi va assi au got. Et vous rappelez le texte pour les matzot de Pessah, l'ouchi, ça veut dire l'ouche, la louche. Moi, c'est l'ouchi.
C'est
beaucoup ça. Vous savez où c'est? Pétri. Pétri, effet, les matzot. Vous rappelez à propos de Pessah, au got, matzot, kilo, hamet. Ogot, aujourd'hui on dit des gâteaux, okay? Mais oga, ça veut dire la forme ronde d'une galette de pain. Que ce soit du pain ou des gâteaux, si on met du sucre, ça devient là.
Okay? Il dit que le repas initial, le repas caché par excellence, c'est celui qui est composé de viande grillée, herbe et pain enlevé. C'est un peu à côté du cours, mais enfin, j'ai rencontré dernièrement un parole qui pense que la viande est une tolérance à l'égard d'un...
Quelqu'un m'avait fait cette allusion une fois dans un cours et je vous ai déjà répondu, me semble. Alors c'est pas cette année ou c'est à ce cours-là. Non, ça c'est une légende. C'est une légende. Que Moïse était végétarien ou que la Torah aurait préféré qu'on soit végétarien, etc. C'est pas le sujet ce soir, mais je voudrais simplement une phrase de... Il y a eu un long temps de l'histoire où il y avait interdiction de manger de la viande. Et à partir de ça, après le déluge, non seulement l'autorisation a été donnée, mais il y a une prescription de manger de la viande à certaines conditions. Je veux dire, quelle est la règle? C'est-à-dire qu'en principe, suivant l'enseignement du Talmud à ce sujet, et repris par la Kabbalah, en principe, mais nous sommes dans un temps beaucoup plus dilué que cela, c'est pourquoi la halakha est beaucoup plus tolérante, en principe, seul un Talmud Chacham a le droit de manger de la viande, et pour lui c'est un devoir. Et un Amaret n'a pas le droit de manger de la viande parce qu'il est au même niveau que la viande qu'il mange. Alors c'est un meurtre. Un Talmud Chacham est à un niveau supérieur que l'animal qu'il mange, alors il a le droit. Et puisqu'il a le droit, si vous comprenez pourquoi il a le droit, vous comprenez pourquoi c'est un devoir. Mais c'est un devoir, en tout cas, le Shabbat et les jours de fête. Mais étant donné qu'on est tombé de niveau, alors la halakha tolère à n'importe quel juif de manger de la viande, à condition bien sûr que ce soit kasher. Mais en principe, seul un Talmud Chacham aurait le droit de manger de la viande. Voilà la règle. Il y a un devoir de manger de la viande parce que par la nourriture qu'on fait élever les niveaux inférieurs de l'être. Avant le déluge, il y avait trois stratégies, si je veux dire, trois possibilités. La première, c'était la domestication. Je ne sais pas si je vous ai parlé de ça. Alors, la capacité de domestication a été perdue par l'homme. C'est très bien que le mystère des espèces domestiquées. C'est une capacité que l'homme a connue, a possédée et qu'il a perdue. Et aujourd'hui, on sait à la rigueur faire du dressage de cirque. On peut dresser des animaux individuels, mais on n'est plus capable de domestiquer des espèces. Vous comprenez ce que je veux dire ? Bon, ça c'est un pouvoir que l'on a perdu, et par la domestication.
Malheureusement, à cause d'une panne technique, l'enregistrement de cette leçon a été interrompu.